Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Franchement, je suis assez fière du livre qui nous a amené à discuter toutes les deux, parce que c'est un livre étape pour moi qui m'a permis, moi la première, de voir tout ce que j'avais fait et dans quel contexte j'avais grandi. Et que tous les retours que j'ai de mes lectrices, c'est « Oh là là, ça me déculpabilise, ça m'aide, etc. » Et je me dis « Mais c'est incroyable comment on a besoin d'être déculpabilisé, d'être autorisé. » Bon, moi, je pourrais dire « Je suis fière d'être arrivée à 60 ans et d'être encore aussi dynamique, ambitieuse, pleine de projets. » Ça, c'est quand même un grand étonnement pour moi. Et une fierté. Me sentir aussi en forme, d'aimer mon corps, d'aimer comme je suis, ça c'est vraiment une grande je suis fière de ça, parce que c'était pas gagné. Quand je me revois à 20 ans ou à 30 ans, franchement, c'était pas gagné.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir aujourd'hui de partager avec vous les coulisses de la réussite d'une nouvelle femme exceptionnelle. Après avoir fait les Beaux-Arts, Marie-Laurence crée, contre toute attente, une agence de relations presse, alors qu'elle n'a que 20 ans. 19 ans plus tard, elle est maman de 3 enfants et vit une vraie crise de sens. Elle découvre alors la méditation. Marie-Laurence a aujourd'hui 60 ans, elle est toujours à la tête de son agence RP et est devenue une pointure dans l'univers de la méditation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Laurence Quétoir.
Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, quand j'ai reçu ta demande, Charlotte, je me suis vraiment interrogée et j'ai repensé à une photo que j'avais faite lors d'une promenade en bord de Seine. J'habite pas très loin de la Seine et j'ai vu une toute petite cabane un peu éloignée de la berge, toute mignonne, mais très discrète, fermée. Et j'ai repensé à ça hier quand tu m'as demandé d'imaginer un objet qui me représentait. Pas que je me prenne pour une cabane, mais en tout cas, son petit côté modeste, un peu caché, un peu secret, ça me fait penser à la petite Marie-Laurence qui est au fond de moi et que à laquelle je fais pas assez attention d'ailleurs, et à laquelle on ne m'identifie pas forcément, parce que je travaille dans les relations publiques, je suis quelqu'un qui apparaît comme assez sûre d'elle, assez bavarde, assez publique justement. Or il y a cette petite cabane, il y a ce petit jardin secret, cette petite maison au fond de moi qui est comme une enclave poétique et une dimension intérieure à laquelle je tiens, et je trouvais que c'était une bonne idée pour une fois d'en parler.
Très bien, justement ça va être l'occasion de faire une bonne transition pour que tu nous racontes où est-ce que tu as grandi et quel type de petite fille tu étais.
Oh, quelle délicieuse question. Je suis trop contente de parler de ça. Alors quel type de petite fille j'étais? On me disait souvent garçon manqué. Donc j'ai pas trop eu l'impression d'être une fille réussie. Je pense que ça c'est quelque chose qui a fait question pendant des décennies et qui a été une question à travailler pour moi. Donc j'étais très intrépide, j'adorais grimper aux arbres, je me blessais souvent d'ailleurs, mais même pas mal, j'étais absolument pas douillette. Je gagnais tout le temps les courses à pied, les concours de billes dans la récré, etc. Donc vraiment les cheveux courts, les petits shorts bermuda ou pantalon, enfin vraiment une voix assez grave. On me disait souvent bonjour monsieur quand je rentrais dans un magasin avec ma maman si le vendeur ou la vendeuse ne regardait pas, mais au son de ma voix, ils se disaient, tiens, ça doit être un petit garçon. Donc voilà, j'avais ce côté-là et en même temps un cœur tendre, une hypersensibilité parce que voilà, une enfance assez baignée dans la violence et voilà, c'était peut-être ça. Le côté garçon manqué, c'était probablement une protection, mais il y a là pareil à l'intérieur, il y avait une petite probablement une petite fille fragile et très sensible et puis bah voilà, j'ai grandi avec les deux cohabitants, c'était vraiment intéressant comme dilemme, mais comme moyen de se construire aussi.
Pourquoi et une enfance baignée dans la souffrance ?
Pardon ?
Pourquoi une enfance difficile ?
Oh, parce que un père très violent, hein, tout simplement. Hein, donc parce que de la violence dans la maison, ça arrive, c'est très 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 courant. Mmh. Et alors, quant à dire où j'ai grandi, oui, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre parce qu'un jour, j'ai fait le compte. À 20 ans, j'avais déjà déménagé 20 fois.
Waouh.
Et c'est pas du tout parce que mon père était militaire ou fonctionnaire, mais c'est juste que mes parents avaient la bougeotte et qu'ils aimaient vraiment changer d'endroit tout le temps. Donc, je déménageais sans arrêt, je changeais d'école sans arrêt. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'assez sportif.
Ouais, il faut s'adapter.
Oui, mais j'ai des très, très bons souvenirs d'une période de mon adolescence passée dans le Périgord noir, probablement les années les plus heureuses de mon enfance, où là, j'étais en connexion avec la nature, avec les animaux. On habitait dans une ferme, on élevait nous-mêmes des animaux. Et c'est vraiment des souvenirs qui m'accompagnent très souvent pour me rappeler mon lien à la terre, pour me rappeler mon amour de la nature, mon amour des animaux, que ce soit les poules, les oies, les lapins, les brebis, les sangliers, les vaches. Et c'est quelque chose qui manque. Quand à chaque fois que je m'en souviens, ça manque. J'ai la chance d'avoir connu une nature et une paysannerie qu'on trouve quasiment plus maintenant.
Et du coup, tes parents, ils faisaient quoi comme métier pour pouvoir justement avoir la capacité de bouger autant ?
Oh, bah, plein de métiers différents.
Ils changeaient à chaque fois ?
Plein de métiers différents. Mon père est ingénieur. Enfin, maintenant, il est à la retraite, mais il était d'une formation ingénieur et il a occupé beaucoup de postes de direction. Tu m'entends toujours ?
Oui, je t'entends toujours, oui.
Il a occupé beaucoup de postes de direction différents, de la direction juridique, la direction marketing, la direction industrielle. Voilà, il a pas mal changé. Et ma maman, elle était formée aux beaux-arts et était maquettiste. Et donc, elle a toujours beaucoup ce qu'on appelle maintenant le graphisme ou la direction artistique. Elle était vraiment dans ces métiers-là qu'on appelait maquettiste à l'époque.
Et toi, quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves ? Tu disais, oh, quand je serai grande ?
Alors, quand je serai grande, je serai actrice. Alors ça, c'était le rêve. À partir de l'âge de 5 ans, je jouais la comédie devant mon miroir très, très, très régulièrement. Ou alors, je serai écrivaine, j'écrirai des histoires. Donc, actrice, je ne le suis jamais devenue, même si parfois, en faisant des relations presse, il y a quand même, oui, quand même certaines mises en scène. Mais on est quand même plutôt dans l'ombre que dans la lumière dans ces métiers-là. En revanche, écrire, j'ai toujours écrit, mais de façon tout à fait confidentielle et pour moi, peut-être justement dans ma petite cabane secrète. Et puis, en 2014, j'ai sorti mon premier livre et voilà, ça, je suis contente. C'est une partie du rêve qui a été réalisée, mais qui va continuer à se réaliser. C'est vraiment une grande découverte, l'écriture et la publication de ce qu'on peut écrire.
On va en parler un petit peu après. Juste avant, là, donc, du coup, donc, tu bouges, comme tu disais, très, très, très régulièrement. Comment ça se passe pour toi, le choix des études?
Avant de juste répondre,
oui,
à
bien
ça,
sûr,
le fait que j'ai bougé très souvent comme ça, ça a provoqué chez moi une boulimie de contact. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne des contacts et que je m'intéresse aux autres très très vite en un temps record. Parce que quand on change d'école tous les ans, voilà, on n'a pas des copines ou des copains sur la longueur. Donc à chaque rentrée scolaire, je regardais beaucoup les élèves, notamment dans ma classe, mais aussi dans les cours de récréation. Je regardais beaucoup les élèves pour voir avec qui je pourrais trouver des affinités assez assez rapidement et avec qui je pourrais me lier. Et je crois que c'est quelque chose il y avait un côté douloureux, bien sûr, à être arraché comme ça d'une école ou d'amitié, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup servi dans la vie ensuite et que j'ai gardé, cette grande curiosité pour les gens qui m'entourent. Et puis au niveau des études, mon papa voulait vraiment que je sois scientifique, m'a vraiment beaucoup encouragée à suivre voilà une filière mathématique. Mais en fait, au moment où j'ai réussi à me rebeller, je lui ai dit que moi je voulais faire les beaux-arts comme ma maman. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les arts, hein, vraiment les arts graphiques, la peinture, la sculpture, les images, les films. J'ai réalisé pas mal de clips, de courts-métrages quand j'étais toute jeune adulte. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que c'est pas vers là que tu t'es destinée.
Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue une adulte raisonnable. Ah, et ça, c'est vraiment une erreur qu'on est très nombreux à faire et très nombreux à faire. C'est-à-dire que je faisais ces courts-métrages, je faisais ces clips, et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une première vidéo d'entreprise, qui était bien sûr rémunérée, contrairement aux courts-métrages, par exemple. Et puis une deuxième vidéo d'entreprise, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis un client d'une vidéo d'entreprise qui m'a dit « Marie-Laurence, est-ce que vous me feriez un dossier de presse ? Parce que c'est vraiment bien quand on fait les salons, vous rédigez bien les commentaires des vidéos, vous savez écrire, vous pourriez nous faire un dossier de presse ?» Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça, un dossier de presse ?» Il m'a expliqué, j'ai fait, et j'ai découvert mon métier. Je n'étais pas du tout formée aux relations presse, mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir… envoyer comme ça ou remettre un dossier de presse à une journaliste et de trouver un article quelques semaines ou quelques mois après dans son magazine. J'ai trouvé ça magique et j'ai décidé d'en faire mon métier, de créer une agence qui existe toujours, une agence de relations médias et qui est devenue mon moyen de subsistance et mon métier, ma profession.
Et quand tu as monté cette agence, du coup, tu avais quel âge ?
20 ans.
Oui, donc tu étais super jeune.
Oui, tout à fait. J'allais sur mes 20 ans, oui.
Et quand t'as décidé de monter ton agence, t'as eu des peurs à cette époque-là ?
Oui, c'est très
difficile. C'était quoi tes peurs ?
Ah ben, de pas trouver de clients, de pas y arriver, de pas être légitime, de pas être professionnelle, enfin toutes les peurs, notamment à 20 ans, mais c'est des peurs qui sont chevillées au corps parfois longtemps, mais là c'était vraiment démarrer sans être certaine de rien. J'avais eu la chance qu'un client me fasse confiance et que je découvre cette magie des relations médias et de leur impact possible, mais je ne savais pas du tout si d'autres clients allaient me suivre, si les journalistes allaient m'écouter, si mon agence allait juste pouvoir me rémunérer. Oui, il y avait beaucoup de peur, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Je faisais toute la prospection commerciale, bien sûr, hein, j'étais seule au départ et non, c'était créer une entreprise. Et la faire vivre et la développer, c'est un investissement pour une jeune entrepreneuse de chaque instant.
Et comment réagit ton entourage quand tu leur as dit que tu créais une agence RP alors que tu venais de l'univers des beaux-arts? On était loin aussi du côté ingénieur de ton papa.
Oui, je ne me souviens pas bien parce que là encore, j'avais déménagé. J'arrivais à Paris, en fait, alors que j'avais fait les Beaux-Arts à Toulouse. Donc, en fait, j'étais déjà un peu là aussi en rupture des relations ou de ma vie d'avant. Donc, j'ai pas eu à gérer une incompréhension de la part de mon entourage. Et puis, pendant quelques années, j'ai mené de front toujours la réalisation de courts-métrages, de vidéos d'entreprise ou de clips musicaux et les relations médias. Donc, j'arrivais à faire un petit peu tout ce que je voulais.
Et à partir de quand, du coup, tu as arrêté de faire ces deux activités ?
C'est une excellente question.
Merci.
Mais vraiment, c'est très intéressant de répondre comme ça, on the spot, j'adore. En fait, c'est quand j'ai été enceinte de ma première enfant. Je me suis dit, les tournages, ça peut pas continuer, ça sera pas compatible avec une vie de maman, parce que les tournages, c'était quand même être sur le pont jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin quand il y avait des galères techniques, c'était passer des heures en montage, c'était en fait être hyper disponible tout le temps sur les tournages et les quand j'étais pas sur les tournages, j'étais aux relations presse. Donc j'ai bien compris qu'en ayant une enfant, j'allais pas pouvoir être comme ça 20 heures sur 24 en train de bosser ou de m'occuper de mes activités professionnelles, et donc j'ai décidé de lever le pied et d'arrêter au niveau de la production audiovisuelle, on appelait ça comme ça à l'époque, production de films ou de courts-métrages ou de vidéos d'entreprise, et de me consacrer aux relations presse qui, elles, même s'il y avait parfois quelques soirées ou quelques dimanches où j'étais en service, ça reste une profession très raisonnable au niveau des horaires. On est quand même très calé sur les horaires de bureau. Donc, c'était compatible avec une vie de jeune maman.
Oui, parce que toi, t'étais dans ce qu'on appelle dans le B2B, sur des activités B2C. Je pense typiquement, tu vois, j'ai une de mes amies qui a été RP dans tout ce qui est univers musical. Et oui. Si tu veux, bon bah voilà, quand il faut accompagner un artiste sur le 20h de TF1, c'est
absolument. Alors, je suis B2B et B2C, mais dans le secteur de la maison, de l'architecture, de la construction, donc on a vraiment les horaires de bureau, en fait. C'est vrai que on n'est pas dans le showbiz où il faut effectivement être absolument disponible le soir. Il faut participer à beaucoup de soirées pour exister, pour que les artistes que tu représentes existent. Il faut bien sûr faire des plateaux télé qui sont plutôt le soir que le midi au niveau musical, c'est exact. Alors que moi, dans ce secteur-là, même quand je travaille avec de la presse grand public, mais spécialisée maison décoration, on est vraiment sur des horaires tout à fait classiques.
Et pourquoi tu t'es spécialisée dans cet univers-là ?
Par hasard. Tout à fait par hasard, par opportunité, parce que ce premier client qui m'a offert l'opportunité d'écrire mon premier dossier de presse était dans le domaine de la maison, donc ça s'est fait comme ça. C'est une presse que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Je l'ai trouvée très saine. C'est des journalistes que j'ai trouvés très concrets, très directs, simples. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la simplicité, le pragmatisme, les choses concrètes. Ça me plaît beaucoup. Et puis, il y avait quand même une possibilité de faire vibrer ma fibre artistique aussi, parce qu'on était quand même dans les tendances déco, dans la décoration. On est créé un bel univers dans lequel on puisse vivre bien ou travailler bien. Ça demande aussi des talents d'artistes de la part des architectes, des décorateurs, des architectes d'intérieur, des stylistes. Donc, je me retrouvais bien aussi dans ce monde-là.
D'accord. Et est-ce que, alors là, on est un peu en marge, mais est-ce que, parce que là, du coup, ton agence est toujours aujourd'hui spécialisée dans cet univers-là. Oui. J'imagine que tu as dû avoir des personnes qui t'ont contacté en disant, bah tiens, moi, je suis dans un univers qui est complètement différent. Et donc, du coup, parfois, je sais que pour des gens qui sont spécialisés, il peut y avoir l'appel des sirènes de justement arrêter de se spécialiser.
Oui, alors effectivement, j'ai eu des opportunités, beaucoup auxquelles j'ai répondu non parce que je savais qu'on serait moins efficace qu'une agence connaissant déjà la presse qu'il fallait sensibiliser, notamment en beauté, cosmétique, mode. Ça, c'est je ne me sentais pas la force d'aller créer des relations avec cette presse que je ne connaissais pas, que je connais que en tant que lectrice. Mais j'ai dit oui quelques fois sur des sujets vraiment vraiment intéressants. Je me souviens du sirop de bêtises de Cambrai où effectivement on s'est retrouvé sur le nul par ailleurs de Canal Plus parce que c'était de la bêtise en bouteille et que ça a beaucoup plu aux journalistes. Voilà, des choses comme ça en one shot qui étaient finalement des vrais sujets presse qui dépassaient largement toute spécialité.
Ouais. Qui était large. Et donc, du coup, là, tu as ta première fille. Là, ça te chamboule ta vie. Parce que donc, toi, tu es entrepreneuse, mais ton mari aussi est à son compte.
Oui.
Comment on t'en parle bien dans ton livre « Affirmez-vous ».
Oui, absolument. J'en parle dans mon livre « Affirmez-vous » parce que je trouve que c'est très important qu'on ait des récits aussi qui nous expliquent qu'on peut faire, que parfois, on a la chance, si on s'en donne le temps, la réflexion et les moyens, de faire autrement que les schémas imposés. Et ce qui est clair, c'est que moi, ni mon mari, qui n'était pas encore mon mari, mais le père de mon premier enfant et de mes deux autres enfants, on s'est mariés ensuite, mais ni moi, ni lui n'avions envie de nous séparer trop tôt de cet enfant qu'on attendait tellement et qu'on espérait tellement. Et donc, on s'est dit, comment peut-on faire? Alors, c'est vrai que la chance qu'on avait, qu'on a toujours, c'est qu'on était chacun à notre compte. Donc, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de poids sur les épaules, mais c'est aussi une grande liberté quant à ce qu'on peut faire parce qu'on a de compte à rendre qu'à nous et à nos clients, bien entendu. Mais ça, on sait le faire, c'est la relation commerciale, c'était à nous de nous organiser. Et donc, on a décidé de passer à mi-temps, qui était un faux mi-temps, puisqu'en fait, je faisais toute ma journée en une demi-journée et lui faisait toute sa journée en une demi-journée, mais le reste du temps, à tour de rôle, on s'occupait de notre fille. Et ça a été vraiment des années délicieuses, vraiment magnifique. Alors, on habitait juste à côté des bureaux et donc, quand j'avais fini, bouclé, je courais jusqu'à la maison pour prendre le relais auprès du papa et pouvoir passer l'après-midi avec ma fille. Mon mari s'en occupait le matin et moi, je m'en occupais l'après-midi, puis on se retrouvait tous les trois le soir.
C'est fou parce que vous étiez… Donc, ça, c'était… Elle a quel âge, ta fille, aujourd'hui ?
Maintenant, elle a 26 ans.
Parce que à l'époque, maintenant, voilà, les papas, ils ont des congés paternité et compagnie, mais il était hyper avant-gardiste, ton mari.
Oui, hyper avant-gardiste. Et puis tu sais, Charlotte, même les congés paternité, alors voilà, ça commence à venir dans l'oreille, ça reste quand même très très peu. Hein,
c'est oui, pas... et puis de toute façon, tu vois, j'en parlais l'autre jour, le père de mes enfants, il a jamais pris. Enfin, tu vois, à l'époque, quand mes enfants sont nés, il y avait 3 jours, les 3 jours plus après, tu pouvais prendre 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, sachant qu'il est entrepreneur, hein, donc en soi. Il aurait pu prendre le temps qu'il voulait, mais je crois qu'il a même pas pris les 3 jours.
Ça reste rare et même maintenant, c'est pour ça que j'en parle dans le livre parce que je trouve que c'est bien de. C'est pas encore un sujet. C'est pas vraiment acquis. Hein. Il y a encore pas mal de voilà de oui d'ouverture d'esprit à avoir et surtout moi ce qui s'est passé dans ma vie est grandement à cause de ou grâce à l'arrivée des enfants, c'est que je me suis toujours interrogée sur comment je pouvais faire au mieux. Ça n'a pas toujours été facile, mais vraiment, au moins, je faisais cet effort-là de me poser un peu. Et c'est vrai que quand on a trouvé cette solution avec mon mari, on a trouvé ça génial parce que lui était tellement heureux. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour un homme s'occuper de son enfant, c'est un cadeau. C'est difficile, hein, tu le sais bien, puisque tu as des enfants aussi. J'apprends que j'ai des enfants aussi. C'est quand même un sacré boulot, mais quel cadeau aussi. Et là, aujourd'hui, que nos 3 enfants sont de jeunes adultes, qu'est-ce qu'ils aiment leur père, qu'est-ce qu'ils aiment leur mère, mais surtout quelle bonne relation ils ont avec leur père et avec leur mère. Donc c'est très précieux, c'est des cadeaux pour la vie, ça. Et moins tu connais ton enfant, enfin moins tu t'en occupes, moins tu le connais, plus c'est difficile de bien s'entendre avec lui. C'est aussi bête que ça, quoi.
Oui, puis tu crées une relation. Je pense à une petite fille que je connais où son papa il s'en est très peu occupé quand elle était toute petite. Même quelques années plus tard, elle lui fait payer en fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que il y a
de façon évidemment inconsciente, hein, parce que elle a pas la conscience de ça, cette petite fille. Mais ouais.
Oui, et là, du coup, il y a un cercle vicieux qui se met en place parce que le papa est agressé, donc il devient agressif, donc il sait pas comment l'apprendre. Enfin, c'est compliqué. En fait, ouais. Si on disait beaucoup plus souvent au père que c'est plus simple de s'en occuper un peu que de gérer les problèmes quand on s'en occupe.
C'est ça.
Même si ça paraît, et c'est encore une fois, c'est vraiment du boulot, c'est des responsabilités, mais au fond, c'est plus simple. Et c'est surtout l'occasion d'une relation humaine exceptionnelle. Toutes les relations humaines sont intéressantes, mais la relation père-enfant, mère-enfant, enfant-parent, sont des relations très, très précieuses qui nous apprennent beaucoup sur la patience, sur la créativité, sur la présence. On va peut-être parler de présence aujourd'hui, mais il n'y a pas meilleur maître de méditation que les enfants. Ils nous obligent à être présents, donc c'est formidable.
Ouais, et puis nous permet d'apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à grandir. En fait, c'est vraiment parfois, moi, je sais que mes enfants, ils me font des réflexions et je me dis, oui, t'as raison.
Tu as tellement raison. Les enfants nous apprennent à grandir. Mais ça, c'est un pur slogan. C'est absolument ça. Les enfants nous apprennent à grandir, nous aident à grandir. Absolument.
Et oui, il nous force à prendre un recul sur les choses qui est L'autre jour, mon fils, il me dit, mais maman, pourquoi tu... Alors, ça date parce que je suis mieux dans ma vie, donc je leur crie plus dessus. Mais à un moment où j'étais pas bien dans ma vie, il me dit, mais maman, pourquoi tu me cries dessus? C'est parce que t'es énervée à cause de ça et pourquoi ça retombe sur moi? Tu as raison. Tu as raison.
Une intelligence d'analyse. Hein,
c'est ça. J'ai fait, oui, t'as complètement raison. Et tu es un petit bonhomme de je sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir peut-être 9 ans, un truc comme ça. Je dis, waouh, moi, j'ai mis 37 ans à découvrir ça, quoi.
Ouais. Ouais. C'est là qu'ils peuvent être des maîtres de vie. C'est pas du tout que ce soit eux les patrons et eux les chefs. C'est pas
non, bien sûr.
C'est que vraiment ils nous apprennent quelque chose. Voilà. Et souvent là où on veut pas trop regarder ou là où on n'a pas pris le temps de regarder.
C'est ça. D'ailleurs, tu vois, c'est tes dernières parenthèses là-dessus. C'est drôle parce que souvent quand je suis interviewée dans des podcasts, donc voilà, je dis bon voilà, j'ai pendant mon burn-out, j'ai fait un gros malaise et puis après je suis retournée voir le médecin et j'ai dit que j'acceptais, enfin que j'avais compris, que j'acceptais de me faire arrêter. Et ma fille, elle me dit, maman, j'espère que t'as pas menti encore. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Fait, bah oui, parce qu'à chaque fois tu dis que tu t'es rendu compte. Mais non, c'est nous qui t'avons dit que t'allais pas bien.
Ah oui, en effet. Ouais.
Et ce que leur père leur avait dit, vous la trouvez comment, maman? Et là, il m'avait dit, non mais maman elle crie tout le temps, maman elle est tout le temps fatiguée, maman elle est tout le temps stressée. Et je les avais regardés en disant, bah, oui, enfin comme papa quoi. Et là, il m'avait regardé, il me dit, non maman. Et là, pour moi, ça avait vraiment été un miroir. J'ai dit oui. En fait, pour moi, j'étais aussi stressée, aussi fatiguée que leur père. Et en fait, non, pas du tout. Clairement, j'étais en burn-out, donc non. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de demander à ses enfants comment tu me vois, parce qu'en effet, et puis bon, ils ont pas de filtre, hein, on le sait.
Oui. C'est intéressant l'expression de miroir, l'image du miroir que tu prends, parce qu'il y a vraiment ça. Hein, et moi, j'enseigne beaucoup sur l'enfant intérieur. Tu sais, rencontrer son enfant intérieur. Je dis tu sais parce que c'est des pratiques qui sont assez connues, qui peuvent être un peu d'ailleurs aussi tarte à la crème. Faut faire ça. Faut y aller. Faut être assez précise dans ces pratiques-là. Ouais. Mais justement. Nos enfants parlent aussi à notre enfant intérieur. Il y a vraiment un effet miroir et font résonner des choses qui, par exemple, ne sont pas réglées ou sont très difficiles à supporter pour nous. Et c'est dans ce sens-là qu'ils, comme tu disais si bien tout à l'heure, ils nous apprennent à grandir. Ils apprennent à faire grandir cet enfant intérieur aussi, à faire la paix avec cet enfant intérieur qui est avec nous pour toujours, quoi.
Ouais. Et puis pour prendre conscience. Alors, je pense là à une personne que je connais qui a son enfant qui est hypersensible, mais je pense qu'il n'est pas que hypersensible, il doit être 10, je sais pas quoi. Et elle me disait qu'en fait, le fait de le voir pas bien et compagnie, chez elle, ça crée un truc horrible parce qu'en fait, ça réveille chez elle tout ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, avec lequel elle avait pas qu'elle n'avait peut-être pas conscientisé et avec lequel elle n'avait pas fait la paix, en fait. Et donc, du coup, de voir son enfant dans la même situation qui l'a fait souffrir, c'était quelque chose pour elle qui était hyper difficile à vivre.
Oui. C'est tout à fait ça, oui.
Donc, du coup, tu as ton premier enfant qui arrive et ton deuxième enfant arrive rapidement après.
Oui, absolument. Assez rapidement après. Pour tout dire, on a fait 3 enfants en 5 ans, ce qui est
beau.
On peut faire plus vite encore, hein, mais c'est déjà pas mal. Passer de 0 à 3 enfants en 5 ans, c'est pas mal. Et le deuxième enfant arrive, un garçon. Et là, je réalise que nous n'allons pas pouvoir garder ce système à mi-temps, chacun notre tour, parce que là encore, je me pose, je réfléchis, je regarde et je me dis, ça va pas aller. Là, je vais aller au-delà de mes forces. Je ne pourrais pas, comme je le dis dans le livre, un jeune couple avec un enfant, c'est pas la même chose qu'une cellule familiale de 4 qui commence à se mettre en place. C'est pas la même intendance. Surtout l'intendance, quoi. C'est pas les mêmes enjeux. Et là, je réfléchis et je commence des discussions avec mon mari, pressentant qu'en fait, il serait peut-être tout à fait intéressant pour nous 4 qu'il devienne père au foyer. Ce qui est pas gagné d'avance parce qu'alors à l'époque, déjà tu dis congé parental du père, bon, mais alors être père au foyer, c'était vraiment, ça se faisait pas. Si ça se faisait pas, on n'en parlait pas. Si ça se faisait, on n'en parlait pas. En tout cas, on n'avait pas d'exemple.
Même aujourd'hui, moi, dans mon entourage, même entourage, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est père au foyer. Ouais. Ah si, hein. Enfin, j'ai connu sa femme, mais je l'ai pas rencontré lui. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est encore aujourd'hui, c'est exceptionnel.
Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais raconter ça, pour dire que c'est, ça existe, c'est possible, et bien sûr, mon mari avait des, je sentais qu'il avait des dispositions pour ça. Je voyais bien comment il s'occupait de notre premier enfant, de notre fille. Je voyais bien que c'était pas du tout à côté de la plaque, qu'il y avait un vrai épanouissement pour lui à faire ça. Néanmoins, arrêter son activité professionnelle pendant quelques années, hein, le temps de, d'élever les enfants jusqu'à l'école maternelle, hein, finalement. Et socialement, se retrouver en retrait, ce que vivent tellement de femmes, c'est douloureux pour un tas de femmes, hein, pour les femmes quitter leur emploi à un moment donné quand elles n'en ont pas envie, et il y en a plein qui vont. Donc il a vécu ce que vivent plein de femmes finalement, mais on a passé ce deal là parce que à l'époque ses activités professionnelles rapport tout ça, on a été très très pragmatique, hein. Je gagnais plus, enfin mon activité rapportait plus d'argent que la sienne, il fallait, maintenant on était quatre bouches à nourrir, donc voilà, il fallait bien regarder, il fallait regarder en profondeur parce que c'était pas facile à voir comme ça de l'extérieur. Il avait un métier beaucoup plus plein de paillettes que le
mien. Oui, son chiffre d'affaires était supérieur au tien, mais la marge, voilà. La tienne était, voilà. Était supérieure.
Voilà, voilà. En termes de chiffre d'affaires, vraiment, il était beaucoup, beaucoup, bien, bien supérieur à mes propres activités, mais en termes de marge, voilà. Donc, on a décidé ça. Il a posé quelques conditions que j'ai tout de suite acceptées. Et là, ça montrait aussi son intelligence de la situation. Mmh. Ce que penserait pas forcément à faire une maman. Il a dit, OK, mais à ce moment-là, j'ai un week-end pour, je sais plus le deal exact, hein, ouais. Charlotte, mais genre, j'ai un week-end pour moi par mois, j'ai une soirée par semaine, et je lui ai dit, OK, ça marche. Et je trouve que c'est tellement.
Ouais, je veux du temps pour moi pour pouvoir,
ouais. Ouais.
Et lui, ouais, c'est clair qu'une femme ne ferait jamais ça.
Et oui, une femme, ouais. elle penserait pas à ça. Elle dirait, oh là là, je vais m'occuper des deux enfants, je vais pas en plus réclamer, alors que c'est très sain. Finalement, il a gardé une chambre à lui, une chambre pour lui, une chambre à soi. Il a gardé un lieu à soi qui était ce week-end mensuel et cette soirée hebdomadaire pour faire ce qu'il voulait, pour s'éloigner aussi de voilà du parentage, du paternage qui est très prenant et pour garder une vie sociale qui ne lui appartienne qu'à lui. J'ai trouvé ça très très malin et donc on a fonctionné comme ça. Et puis un troisième enfant est arrivé et ça fonctionnait bien et puis. Ça a été l'histoire de quelques années, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, une fois que les enfants sont à la maternelle, c'est tout à fait autre chose qui se met en place et on peut de nouveau retravailler la journée chacun de notre côté, quoi.
Ouais. Il y a un truc qui m'a touchée dans ton livre. Tu disais que je crois que c'est suite à la naissance de ton troisième enfant où tu disais que t'étais épuisée.
Oui.
Que t'étais en vacances chez des amis, que t'étais épuisée, que ton ami t'a dit mais va faire des analyses parce que c'est pas normal que tu sois aussi fatiguée.
Oui. Oui, ça c'est oui, c'est vrai, tu as raison. Je m'en suis rappelée quand j'étais en train d'écrire parce que même moi à l'époque, je ne trouvais pas normal d'être si fatiguée. Comme si avoir plusieurs enfants en bas âge, continuer à travailler, mener tout ça de front, ne générait aucune fatigue, qu'on était des machines infatigables, que ça n'avait pas d'incidence sur notre santé, sur notre charge mentale, sur tout ça. Et mes amis comme moi, on s'inquiétait pour moi en me disant « je dois avoir un problème, une maladie ou un problème de santé ». Puis en fait… j'ai fait des analyses sur les bons conseils de cet ami. Tout était absolument OK. J'étais juste fatiguée. Mais on prend pas, en tout cas, là encore à l'époque, j'espère que maintenant on fait un petit peu plus attention parce qu'entre temps est sorti le concept, enfin, la notion de charge mentale qu'on n'évoquait pas du tout, moi, quand j'étais jeune maman. Voilà. Je pense, hein, que le monde a beaucoup, beaucoup bougé depuis. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours le dire, ne serait-ce que pour les femmes de ma génération ou celles qui ont 10 ans, 15 ans de moins et qui se rendent pas forcément compte des actes héroïques qu'elles accomplissent chaque jour et qui peuvent, certes, générer un peu de fatigue. Et c'est normal. Et à ce moment-là, faut trouver, plutôt que de le nier ou de croire qu'on est malade ou de prendre des vitamines ou de boire, de l'alcool pour oublier qu'on est fatigué, bah c'est peut-être rencontrer cette fatigue, la conscientiser, comme tu disais, rencontrer cette fatigue et peut-être prendre quelques mesures pour pouvoir se ressourcer, se reposer.
Ouais, j'ai interviewé une femme exceptionnelle, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Hélène Bonhomme, qui a monté, à la base c'était un blog, mais bon aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça, c'est une communauté, c'est y a un programme, il y a un livre aussi, qui s'appelle Les Fabuleuses au foyer.
Oui.
Et Hélène, voilà, elle a fait un burn-out parental, et elle raconte qu'elle avait à la fois cette culpabilité de pas bien s'occuper de ses enfants, mais en même temps, elle était à la maison, elle était pas bien, mais elle s'imaginait pas non plus retourner travailler. Et elle en parle vraiment bien parce qu'elle met en lumière, en fait, toute cette culpabilité qu'on a en tant que femme, en tant que mère, de se dire, bah voilà, je travaille, mais pourquoi je suis fatiguée? Parce que finalement, toute la charge mentale qu'on se met nous-mêmes, même, bon, il y a celle de la société, mais celle qu'on se rajoute nous-mêmes aussi sur nous.
Absolument. Dans mon livre Affirmez-vous, je parle de double contrainte. Tu sais,
ouais.
C'est vraiment un exemple de double contrainte. C'est-à-dire, et pour la femme, c'est vraiment douloureux. C'est même écartelant, déchirant. Quand je suis au travail, je culpabilise de pas être avec mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, je culpabilise de pas avoir fini ma journée de travail ou le dossier que je devais boucler. C'est infernal. Et vraiment, ça, c'est tu as raison, c'est vraiment la double charge mentale, quoi, double contrainte, double charge mentale. C'est-à-dire, je culpabilise de pas être aussi disponible que mes collègues, par exemple, masculins au bureau, qui eux peuvent rester 1 heure, 2 heures de plus, dire ok à un voyage d'affaires qui les éloigne de la maison, etc. Mais je culpabilise aussi pour mes enfants, parce que si je travaillais pas, je serais plus avec eux. C'est vraiment, c'est important de parler de ces choses-là et de voir que il serait temps d'arrêter de culpabiliser.
Ouais. Oui, et puis ça va dire,
c'est un long chemin.
Oui, c'est long, hein, ça s'apprend, et puis c'est aussi, tu vois, moi je sais que bon, bah, maintenant, grâce au podcast, je fais des épisodes de podcast qui s'appellent Les Coulisses, où je regarde en arrière ce qui s'est passé dans les 6 dernières années. Et parfois, tu vois, je me dis, là, tu vois, il y a pas longtemps, je me dis, ah, je suis fatiguée et tout. Et je me dis, mais je comprends pas, je dors, je reviens de vacances et tout. Et puis après, je regarde l'année qui s'est passée et je me dis, ouais, mais en même temps, il s'est passé tellement de choses. Que c'est normal, en fait, et qu'il y a un moment, il faut accepter de se dire qu'on est fatigué et de se dire, mais en fait, se féliciter, de se dire, mais attends, regarde tout ce que tu as fait déjà, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est plutôt retrouver de la fierté de tout ce qu'on accomplit plutôt que de nier la fatigue et ne pas comprendre.
C'est ça.
Vraiment, il faut être, on peut commencer, nous les femmes, à être. Du côté de l'accomplissement et de la reconnaissance de notre accomplissement plutôt que du côté de la culpabilité.
Exactement. Et donc là, du coup, tu as tes 3 enfants, ton entreprise se développe. À partir de quand tu recrutes ton premier salarié?
Oh, je l'ai recruté bien avant le premier
oui.
enfant. Hein. Oui. Oui, ça s'est développé assez vite. Non, dès les premières, j'ai dû travailler seule pendant 2 ans et j'ai recruté assez tôt. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais déjà des salariés.
D'accord.
Ça n'empêche que, voilà, il fallait que. Ah, si j'avais été seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. Non, là, c'était pas possible.
Ouais.
Non, j'avais déjà des salariés que j'ai toujours, parce qu'on travaille toujours ensemble, que j'adore,
génial.
Sur lesquels je peux vraiment m'appuyer, sur lesquels je peux vraiment. Compter, déléguer, mais néanmoins je reste la patronne de ma petite entreprise et puis voilà, c'est ça, la charge mentale ne change pas malgré tout.
Ouais. Avant qu'on parle de ta rencontre entre guillemets avec la méditation, c'est ton 3e enfant, il me semble, que tu as eu de façon prématurée.
Alors c'est le deuxième.
Deuxième, pardon.
Le deuxième, oui, mais pas voilà, ouais. Absolument. La troisième, elle était très très à l'aise et pas pressée de sortir.
Et du coup, là, donc là, le deuxième, ton deuxième enfant, donc ton fils, quand tu travaillais de façon acharnée entre guillemets.
Oh, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Là aussi, j'ai bien culpabilisé parce que j'ai cru que les alertes à cette naissance prématurée était due au fait que je travaillais comme une dingue, comme s'il fallait que je fasse tout avant que cet enfant n'arrive. Je mettais les bouchées doubles, je prenais l'avion, je faisais des rendez-vous partout. Et bon, les médecins m'ont vraiment, mais c'est leur rôle aussi, hein, de, là, en revanche, dans les hôpitaux qui s'occupent des prématurés, ils font très attention à ne pas culpabiliser les mamans et ils passent leur temps à nous dire que c'est pas de notre faute. Donc ça, c'est bien. Néanmoins, j'avais quand même, on peut toujours trouver une petite voix en soi qui nous culpabilise. Mais ce qui est dingue, c'est que, donc, je me suis retrouvée ce qu'on appelle strictement, alitée, voilà, parce qu'il y avait des signes alarmants, strictement alitée, ça veut dire qu'on peut même pas poser un, on est sur un lit d'hôpital, on n'a même pas le droit de poser le pied par terre, hein, donc on est vraiment.
Pendant combien de temps?
Eh bien, en fait, ça devait durer un peu plus de 2 mois puisque j'étais vraiment à plus de 2 mois du terme, mais mon fils est venu très vite, donc ça n'a duré qu'une dizaine de jours parce qu'il est vraiment né prématuré. Mais il est né en très belle forme, je l'ai vu tout de suite dès qu'il est sorti. Mais bon, il a fallu suivre quand même le protocole. Mais il est né à 7 mois et voilà, j'ai dû être, alité à 6 mois et demi, tu vois. Et ce dont je me souviens, et ce que je raconte dans le livre, c'est que dans mon lit d'hôpital, je continuais à bosser et je continuais à rédiger des communiqués de presse, je continuais à passer des coups de fil. Et je dis dans le livre, mes clients n'avaient aucune idée que j'étais à l'hôpital et quand mon fils lira ces lignes, il sera stupéfait. Parce que c'est dingue, quoi. Même là, je ne lâchais pas, hein. Mais c'est comme ça, oui. Ouais. Je connaissais pas encore la méditation.
Oui. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des risques de grossesse de bébés prématurés, j'ai aussi interviewé une femme exceptionnelle qui s'appelle Charlotte Bouvard, qui a créé la première association pour les familles de bébés prématurés.
Super.
Ouais, et elle est vraiment, donc bon, bah c'est suite à la naissance d'un de ses enfants qui était prématuré. Et donc elle a monté cette association et aujourd'hui, bon, c'est ça fait plus de 20 ans que je crois que l'association existe. Et elle était à l'époque dans l'univers de la politique. Du coup, elle a fait passer des lois pour faire en sorte que les parents de prématurés aient le droit à des jours de congé. Enfin, elle a fait vraiment évoluer les choses. Et c'est vraiment formidable ce qu'elle fait. Du coup, bon, je glisse parce que c'est important de savoir que ça existe pour les familles qui sont concernées.
Ah ben moi, si j'avais rencontré cette femme à l'époque, ça m'aurait probablement beaucoup aidée parce que non seulement on culpabilise de mettre au monde un enfant trop tôt, mais après on s'inquiète pendant des années. On cherche des signes de défaillance. Il va très bien, il est même très très intelligent, mais ça n'empêche que les premières années, j'arrêtais pas d'y penser, quoi, et de me dire voilà, est-ce que tout va bien. Donc c'est vrai que ça doit être très aidant d'être soutenu par et de pouvoir partager comme ça des.
Oui, c'est ça. Il y a des groupes de parole justement entre mamans qui vivent la même chose.
C'est ça, c'est bien. De toute façon, tout ce qui est groupe de parole et groupe d'entraide comme ça, c'est très précieux.
Ouais.
On est souvent trop isolés et on vit nos petits ou grands malheurs trop seuls, trop isolés, dans une profonde solitude, alors que nous sommes toutes des êtres humains qui avons beaucoup à partager et qui avons toutes beaucoup d'expériences qui peuvent aider les autres.
C'est sûr. Et d'ailleurs, enfin, c'est pour ça. Enfin, merci de partager avec nous ton histoire parce que clairement, ça aide de voir que voilà qu'on traverse tous des choses que pas simples et de voir que d'autres personnes arrivent à avancer, à remonter en ayant vécu des choses plus ou moins simples. On est tous capables. On a tous ces forces à l'intérieur de nous.
Absolument. Excuse-moi, Charles.
Mais non, vas-y, je te demanderai après.
C'est vraiment c'est le point de départ du livre, en fait. Tu sais, je comprenais pas pourquoi toutes ces femmes autour de moi, que je trouve moi vraiment, vraiment intéressantes, certaines exceptionnelles, certaines d'une intelligence fulgurante, et pourquoi elles sont toutes complexées, toutes à culpabiliser. Mais vraiment, je dis dans le livre, même des chefs d'entreprise, même des femmes à des postes de direction générale de grands groupes qui pourraient se dire, bon, ben, si on m'a mis là, c'est quand même que je le vaux bien. Et qui, quand même, ont toujours ce léger complexe d'infériorité, etc. Et c'était vraiment ça qui m'a interrogée. Donc, c'est ça que je suis allée fouiller, creuser. Je suis allée chercher les raisons de ce malaise, de ce sentiment d'imposture qu'on a bien trop souvent et qui est absolument pas mérité.
Et pour les personnes qui n'auront pas encore lu le livre, est-ce que tu veux leur donner l'eau à la bouche en leur donnant quelques raisons?
Bien, tout à l'heure, j'ai évoqué la double contrainte. Je pense que justement, la société nous a offert, on a gagné tout ça grâce aux générations qui nous ont précédées, aux femmes qui nous ont précédées, qui ont lutté pour qu'on ait le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord de notre mari, pour qu'on ait le droit de vote, pour qu'on ait le droit de travailler. Donc tous ces droits chèrement acquis, c'est la génération X, née dans les années 60-70, on les a transformés en devoirs. C'était des droits et on s'est dit, puisqu'on a le droit, on doit le faire. Si j'ai le droit de gagner de l'argent, je dois gagner de l'argent. Si j'ai le droit de travailler, il faut que je travaille, etc. Donc petit à petit, on s'est construit beaucoup de devoirs comme ça, qui nous ont placés dans des doubles contraintes parce que la société nous dit tout le temps, là où tu es, tu dois être excellente. Si tu bosses, tu dois être bonne. Si t'es une mère, tu dois être une mère parfaite. Si t'es une épouse, tu dois être une épouse hyper sexy, de bonne humeur et
qui épilée et manucurée.
Exactement. Si tu es une amie, il faut vraiment que tu sois une bonne amie avec une vraie écoute, un vrai sens de l'entraide. Enfin bon. Bref, on doit être bonne, excellente partout. Or, qui l'est, personne. On fait de notre mieux, mais on n'est jamais parfaite. Ça n'existe pas, la perfection. Mais nous, en fait, vivant dans ce mythe de la mère parfaite ou de l'employée parfaite ou de l'amie parfaite, on se fait vraiment du mal. On se met beaucoup de contraintes. Et plutôt que de se féliciter de ce qu'on réussit, eh bien, on passe notre temps à regarder ce qu'on rate ou ce qu'on croit rater, parce qu'en réalité, voilà. Et ce que je montre dans le livre, en étant allée interroger beaucoup de femmes de différents horizons. Et qui font des métiers différents, qui ont des statuts sociaux différents, c'est que effectivement il y a toujours ce syndrome d'imposture qui n'est pas justifié parce qu'elles accomplissent vraiment des choses, mais il est temps qu'elles le voient, il est temps qu'elles le regardent, il est temps qu'on se rende compte que tous les dictats que nous impose la société, mais qu'on s'est très bien intégré, parce qu'on les intègre, et on passe pas notre temps, même si ça bouge maintenant, mais avant de lutter contre les dictats, souvent on les intègre inconsciemment. Et donc, plutôt que de subir ces dictats, reprendre un peu. Moi, je voulais être actrice. Plutôt que de subir et d'être victime, redevenons actrice de nos vies. Redevenons actrice de nos vies. Reprenons les rênes et voyons tout ce qu'on fait de bien et commençons à nous enorgueillir, vraiment, j'ose le terme, à en être fière, parce qu'en réalité, on est des héroïnes du quotidien.
Clairement. Oui, puis on parle beaucoup de sororité, mais ça passe aussi par le fait de dire, regardez, ma vie n'est pas parfaite, elle peut paraître parfaite, mais en fait, elle ne l'est pas.
C'est tellement vrai. Il faut montrer des exemples de la vraie vie. C'est pour ça que j'ai interrogé plein de femmes et que je parle de beaucoup de choses, mais... Et quand on regarde la vraie vie, on voit bien que personne n'est parfaite et que c'est très bien comme ça. C'est la perfection, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est un projet inhumain. Donc c'est très bien de ne pas être parfaite. C'est très bien d'avoir des limites. C'est très bien d'être vulnérable. C'est très bien d'être sensible. C'est très bien d'avoir la capacité d'être touchée, d'être blessée, d'être Parce que c'est ça qui fait de nous des femmes, des hommes, des êtres humains dignes de ce nom. Et surtout, c'est ça qui nous permet d'entrer en relation avec les autres. Et ce que tu dis, c'est vraiment ça, la sororité, c'est quoi? Cette entraide entre femmes, avec ce mot qui revient grâce à Chloé Delhomme. La sororité, c'est magnifique. Nous, on nous a dit liberté, égalité, fraternité. Donc, on pensait que il y avait que la fraternité. Mais la sororité, ça existe. Ça peut exister en montrant qu'effectivement, on a toutes des fêlures et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et que c'est celle qui joue à la femme parfaite ou à l'employée parfaite qui ont un problème. C'est pas nous.
Et on t'en parle, t'en parlais là, et puis t'en parles bien dans ton livre. C'est aussi déjà commencer par accepter soi-même qu'on est vulnérable et qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines, et ensuite pouvoir le partager. Mais déjà, je pense que la première clé, c'est de l'accepter.
Tu vois, c'est ça, on en revient à l'exemple de ma grande fatigue après la naissance de mes enfants. Avec mes amis qui ne comprenaient pas, moi qui ne comprenais pas, l'infirmière qui vient me faire des prises de sang à domicile, les analyses, tout le bazar. Juste parce que je suis fatiguée, j'ai 3 enfants en bas âge. C'est dingue. Pourquoi? Parce que j'accepte pas du tout ma vulnérabilité à ce moment-là. Je vois pas le rapport. Voilà, je devrais juste être une machine qui répond « tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien, donc pourquoi serais-je fatiguée ?» Et c'est ça, quand on découvre qu'on a le droit d'être vulnérable, enfin non seulement on a le droit, mais que c'est même
une qualité. Devoir même, ouais.
C'est même une qualité en fait, hein. C'est vraiment une qualité relationnelle en fait, hein, de reconnaître sa vulnérabilité. C'est exactement ce que tu dis, j'ai le droit, j'ai le droit, je peux, ça fait de moi quelqu'un d'intéressant. Ça fait quelqu'un de moi quelqu'un de fragile, d'intéressant, d'empathique, quelqu'un à l'écoute, parce que comme je sais que j'ai mes problèmes, je peux entendre les problèmes des autres. Comme je sais que je suis limitée, je peux comprendre les limites des autres. Ça, c'est passionnant.
Et de le partager, ça donne envie aux autres de raconter.
Oui. Oui. Tu sais, à la fin du livre, je donne des clés qui m'ont beaucoup aidée, moi. Et la dernière, je crois que c'est la dernière, c'est l'écriture. Et j'encourage tout le monde à écrire pour publier, pour être publié, pourquoi pas, mais de toute façon, écrire pour soi. Et je donne des exemples de femmes que l'écriture a littéralement sauvées du désespoir ou du suicide, ou vraiment sauvées. Et l'écriture, Pourquoi c'est intéressant d'écrire? Parce qu'en réalité, toute vie est un roman. Et si on commence à s'intéresser à notre vie, à regarder et qu'on écrit ça et qu'on partage ça, mais ça passionne tout le monde en réalité. Enfin, tout le monde, j'exagère. Ça peut passionner notre entourage, ça peut passionner nos amis, ça peut nous donner là aussi une manière de nous exprimer et de nous présenter qui est très différente, qui est beaucoup plus vraie et qui du coup est beaucoup plus intéressante pour ceux qui nous entourent.
C'est sûr. Et donc, du coup, à quel moment dans ta vie est arrivée la méditation ?
La méditation est arrivée justement quand j'avais mes 3 enfants, que j'étais au bout du rouleau, mais je ne le savais pas du tout.
Un bon déni.
Tu sais, alors tu me parlais, c'est toi qui emploie l'expression les KPI de la réussite.
Les indicateurs clés de la réussite, ouais, exactement.
Voilà. Voilà. Alors merci pour cette expression, Charlotte, qui est tellement claire, hein, surtout parce qu'en fait j'avais tous mes indicateurs étaient très très bons, hein. Il y avait un retour sur investissement parfait, c'était nickel chrome, tu sais, le gentil mari, les beaux enfants qui vont bien, qui en plus ça marche bien à l'école, moi ma petite entreprise florissante, enfin tout impeccable, et moi je dis dans le livre, j'étais parfaitement intégrée socialement, mais je me sentais désintégrée intérieurement. C'est-à-dire que je savais même pas où j'étais. Alors, je suis pas allée jusqu'au burn-out, ça j'en suis certaine, parce que un burn-out, c'est pas ça, c'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est. Mais grosse fatigue et gros vide existentiel. Mais que fais-je sur cette terre? Et en plus, avec cette incompréhension, puisque les indicateurs sont au beau fixe et moi, à l'intérieur, ça va pas. Donc, vraiment quelque chose, voilà, là encore, un gap entre l'extérieur et ce que je ressens à l'intérieur.
Tu avais 39 ans, c'est ça ?
J'avais 39 ans, absolument. Ouais. Absolument, merci pour le calcul.
De rien. Ah non, si tu l'as mis dans le livre, je suis pas très forte en calcul mental. Pas du tout, même.
Voilà, et puis mon mari... tellement à l'écoute et tellement malin, mais tellement discret aussi, faisant les choses avec vraiment délicatesse, laisse traîner un flyer sur la table de la cuisine de l'époque, je me souviens très bien, un petit flyer sur un stage de méditation, puis je regarde le flyer et je me dis, le titre du séminaire était très très étrange, le moment clé entre la confusion et l'éveil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en même temps, ça me parle. Je comprends rien, mais ça me parle. Ça parle ailleurs, quoi. Ça parle ailleurs qu'à mon cerveau logique de femme d'affaires. Le moment clé entre la confusion et l'éveil. Et je me suis dit, mais c'est là que je suis, moi. Je suis vraiment entre la confusion et l'éveil. C'est-à-dire que je sais même pas où je suis. Je suis vraiment, ce qui est clair, c'est que je suis entre deux, dans une espèce de bardo. On appelle ça le bardo dans le bouddhisme. C'est le moment entre deux où on n'est ni tout à fait endormi, ni encore tout à fait réveillé, où on est plus tout à fait vivante mais pas encore morte, enfin, tous ces bardos, c'est des moments très très intéressants. Et là, entre la confusion et l'éveil, ça fait tilt, ça fait comme un électrochoc dans ma tête. Je m'inscris au séminaire et j'y vais. pour une semaine en résidentiel, en pension complète, sans savoir où je mets les pieds en gros.
Ouais, c'est hyper chouette que ton mari ait fait ça de façon délicate, surtout que à l'époque aujourd'hui les stages de méditation, les retraites de développement personnel, il y en a de plus en plus. Mais à l'époque ça se faisait pas du tout, j'imagine. Enfin, c'était
hyper
précurseur.
Ah oui, puis je peux te dire que j'ai pas crié sur les toits que j'allais faire une retraite de méditation, hein.
Ouais.
J'ai gardé ça pour moi. Mon mari pouvait garder les 3 enfants. C'était un beau cadeau. Et voilà. Officiellement, je prenais une semaine de vacances, hein. C'est clair. J'allais pas crier sur les toits, ni auprès de mes parents, ni auprès de mon entourage professionnel que j'allais faire un stage de méditation. C'était quand même, effectivement, assez confidentiel, hein. C'est vrai. Et puis là, grosse révélation, quoi. En fait, je traverse plein de moments différents, parce que c'est faire une heure de méditation, ça peut être un choc, mais faire une semaine, c'est un bouleversement. Et ça, je traverse vraiment des moments difficiles. J'ai vraiment des moments très très difficiles, très inconfortables, très douloureux. Le troisième jour, je veux même quitter le stage et rentrer chez moi parce qu'il y en a marre. Ça va bien, là, ça suffit. Ça suffit de se rencontrer là et de rencontrer sa finitude et sa vulnérabilité. Ça va bien. Hein. Et puis je me souviens très bien, j'appelle la gare pour avoir les horaires de train et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Mais n'importe quoi. J'ai pris une semaine de vacances. Mon mari s'occupe des enfants. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que de continuer, de juste rester et de voir. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ok, c'est pas confortable. Ok, c'est difficile. Mais après tout, c'est la vie, quoi. Et donc, je reste. Et j'ai pas regretté. Puisque, bien sûr, les retraites sont très, très bien faites, hein. Et c'est souvent les 2-3 premiers jours qui sont très difficiles. Et puis, il y a une bascule au cours du 3e ou 4e jour. Et puis, là, il y a une ouverture qui se fait. Des résistances, hein, qui commencent à tomber aussi. Et puis, je découvre qu'en fait, j'étais en mode survie et non pas en train de vivre, que je ne m'écoutais pas du tout, mais que du coup j'écoutais pas le monde ni les gens non plus, enfin que j'étais dans un système sacrificiel alors que dans le sacrifice tout le monde est sacrifié. Ça, c'est Moussa Nabati qui dit ça. Donc enfin que vraiment il était temps que je bouge, que je rafraîchisse mon regard, que j'enlève les œillères pour reprendre du goût à vivre et pour retrouver, comme tu le disais, du sens à l'existence. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je n'ai plus arrêté de méditer depuis, parce que j'ai trouvé ça tellement transformateur et tellement tellement intéressant, quoi. C'est tellement intéressant de juste s'asseoir et de profiter du spectacle, quoi. On s'assoit immobile, en silence, et on regarde. Mais c'est dingue. Et puis après, ça change totalement notre regard sur en post-méditation, c'est-à-dire qu'il y a la séance de méditation, mais après, le monde est plus frais, il est plus vif, il est plus lumineux, il est plus intéressant, en fait.
Et donc là, du coup, tu sors de cette semaine.
Oui.
C'est quoi la suite?
Alors, la suite, c'est que ça m'a tellement parlé, ça a tellement changé mon regard sur les choses, que quand je rentre, je me dis, il faut que je trouve un moyen, même avec 3 enfants et un boulot à temps plein, il faut que je trouve un moyen pour méditer tous les jours. Donc, toujours très pragmatique, j'ai commencé par me lever 20 minutes plus tôt que ce que je faisais avant. Je me suis dit, si déjà je pratique 20 minutes par jour, ce sera bien. À l'époque, on faisait des sessions beaucoup plus longues, mais je me disais, moi, j'arriverai pas à faire 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Si je me fixe ça comme objectif, je vais être découragée. Donc, je suis partie sur 20 minutes. Je me levais 20 minutes avant les enfants et c'était super. J'avais la maison, enfin, un appartement à Paris, mais voilà, la maisonnée pour moi toute seule, si je puis dire. Mais oui, il y avait aussi ce côté-là, c'est-à-dire un espace pour moi toute seule, en silence, où je pratiquais la méditation. Et puis voilà, la fin de ma méditation, c'était l'heure du réveil familial. Voilà, habiller les enfants, faire déjeuner, petit déjeuner tout le monde, amener à l'école, etc. Et j'ai vraiment réussi à mettre une pratique quotidienne en place comme ça, en étant très très méthodique. Et toujours, quand j'en avais marre, quand je me disais au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, est-ce que c'est vraiment utile? Toujours, je revenais à ce séminaire que j'avais vécu. Je me disais, mais oui, bien sûr, rappelle-toi, c'est ça qui t'a ouvert les yeux, c'est ça qui te permet aujourd'hui de vivre et de ne plus être en mode survie.
Et d'ailleurs, on dit souvent que quand on a envie de lâcher les bras, c'est juste au moment. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça dans un épisode de podcast. Alors, j'ai plus le nom de la personne, mais qui disait que si t'as envie de lâcher les bras et que tu dis, ah, oh, j'ai pas envie de faire ma méditation, bah là où normalement tu fais 20 minutes, tu fais 40 minutes parce que c'est là où t'en as encore plus besoin que d'habitude.
Oui. Et puis, en plus, c'est pas quand on en a pas envie que c'est le moins intéressant. C'est-à-dire que on n'en a pas envie, allez, on fait un petit effort, on s'assoit et on est tout à fait surprise de ce qui se passe. Alors que parfois on en a super envie, puis on y va, puis c'est plat comme tout, c'est ennuyeux, il se passe rien. Ce qui ne veut pas du tout dire que la méditation n'a pas été active, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on ne sait jamais ce qui nous arrive et c'est encore une fois, c'est pas quand on n'en a pas envie que ça se passe le plus mal du tout.
Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à lancer une activité autour de la méditation ?
Alors, j'ai pris mon temps parce que je n'imaginais pas du tout faire ça. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que toutes mes vacances, je les ai consacrées à la méditation. C'est-à-dire que dès que j'avais des congés, avec l'accord de mon mari, bien sûr, j'allais en stage de méditation. J'ai commencé à coordonner des stages de méditation parce que ça me plaisait beaucoup avec l'enseignant qui m'a transmis la méditation, qui m'a appris à méditer. Donc j'ai organisé ces séminaires et les stages qu'il dirigeait pendant des années. Et puis un jour, en 2014, il m'a dit est-ce que ça te dirait d'enseigner la méditation? Et là, j'étais stupéfaite. Mais enfin, pourquoi?
Le bon petit syndrome de l'imposteur.
Ah, mais carrément. Mais enfin, pourquoi moi? Mais enfin, voyons. Et puis, j'ai dit oui quand même. J'ai écrit un premier petit livre sur la méditation, ce qui m'a beaucoup aidé à éclaircir mes idées et à voir où en était ma compréhension de cette pratique. Donc, j'ai écrit un premier livre chez le Duc sur la méditation qui s'appelle tout simplement La méditation, qui est sorti en 2014, et j'ai commencé à enseigner et j'ai adoré ça tout de suite. J'ai eu vachement la trouille et ça m'arrive encore d'avoir peur et d'avoir le trac, moins mais quand même, mais même avec la peur au ventre, le plaisir de transmettre, de partager ça et d'aider les gens en face de moi à comprendre la merveille que peut être cette pratique, ça m'a énormément plu. Et donc,
j'ai pas. Et donc là, du coup, comment t'as réussi à gérer ça plus ton travail?
Franchement, je ne sais pas, Charlotte. C'est un peu un mystère. C'est une question qu'on me pose souvent parce que je fais beaucoup de choses et j'arrive à les faire bien. Alors, je pense que j'ai une puissance de travail peut-être un petit peu assez importante, que j'ai aussi un sens de l'organisation très très développé. C'est naturel, c'est un don. Puis j'ai plein de défauts par ailleurs. On s'en fout, c'est pas le propos. Mais en tout cas, cette qualité d'organisation, je l'ai. Et ce qui est étrange, c'est que la méditation, c'est vraiment ce que j'ai réalisé dès le premier séminaire que j'ai fait, la méditation m'a offert du temps et de l'espace. C'est-à-dire que plus je médite, plus j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour faire ce que j'ai à faire, et plus je médite et plus j'ai l'impression d'avoir de la place, de l'espace pour m'épanouir, pour bouger, pour mettre en place ce que je dois mettre en place. Et c'est difficile d'expliquer, je pense que c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit et qu'on a peut-être encore peu étudié, mais parce qu'à chaque fois on me dit oui, c'est parce que avec la méditation t'arrives à mieux t'organiser tout. Je dis non, je m'organisais très bien aussi avant. C'est oui, mais t'as peut-être plus le sens des priorités. Oui, peut-être, mais j'avais très bien mes priorités avant aussi. Non, c'est vraiment un rapport au temps qui est
différent. Une ouverture d'esprit, ça change les choses dans notre façon de penser.
C'est ça, c'est ça. Il y a moins de panique, tu vois, par exemple. Il y a moins de panique, moins de pression à dire, faut absolument que je finisse tout ça dans un temps donné. Il y a moins de panique, moins de pression, moins de speed. Et du coup, les choses se font de manière plus fluide et je peux faire plus de choses. Et donc, voilà, il y a des temps où je peux vraiment enseigner des stages de méditation plusieurs fois dans l'année, des soirées de méditation, j'y étais hier soir, des week-ends de méditation, et ça ne m'empêche nullement de continuer à gérer mon entreprise, ou à écrire des livres, j'y arrive, mais je pense que c'est aussi le secret de la méditation, c'est un des trésors de la méditation.
Ouais, d'arriver à se recentrer sur soi et...
Pardon ?
Arriver à se recentrer sur soi et extraire finalement le meilleur de soi-même, en fait.
Oui, Oui, peut-être que tu as raison, il y a une piste là, quelque chose qui nous dirige vers l'essentiel pour nous, hein,
parce oui, bien sûr.
Il y a rien d'universel hein, dans ce que je dis, mais l'essentiel pour nous, et ce qui est beau d'ailleurs, c'est que quand c'est essentiel pour nous, c'est souvent là que ça peut intéresser les autres. Et tu as beaucoup parlé de partage là dans notre discussion, et ce qui est essentiel pour moi, si je le partage, je vois que ça peut aider et concerner d'autres personnes. Si c'est pas essentiel pour moi, que c'est juste un petit peu général ou un petit peu banal ou un petit peu convenu, bah ça intéresse beaucoup moins les autres. Donc c'est vrai que la méditation, elle nous aide vraiment à tourner notre esprit vers ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous concerne vraiment, ce qui nous passionne vraiment. Et à partir de là, peut-être qu'on trouve aussi plus de temps et plus d'énergie pour accomplir. Hein.
Ouais. Ouais, moi je sais qu'alors tu vois ça faisait partie de mes résolutions de cet été de méditer plus et j'ai suivi le programme de Deepak Chopra sur l'abondance là en septembre et bon c'était pour le coup c'était 20 minutes de méditation plus des exercices assez enfin vraiment basés sur l'introspection où ça allait vraiment loin donc c'était du boulot hein, clairement, mais il y a énormément de choses qui se sont ouvertes à moi pendant ce mois et même après. Mais tu vois, régulièrement, je me dis là, il faudrait que je me reforce parce que c'est comme quand tu commences à faire du sport, il faut se forcer au début et puis après ça devient ça devient dans un automatisme. Oui. Mais oui, je me dis là, je me disais ça la semaine dernière, je me dis il faudrait que je réintègre la méditation dans mon quotidien.
Oui, ce qui est pas mal, ce qui peut être aidant, c'est de vraiment se rappeler notre motivation à méditer. Tu vois, s'il y a quelque chose que tu as découvert pendant ce séminaire avec Deepak Chopra, c'est quelque chose qui t'a vraiment... Tu te le notes sur un carnet. Moi, voilà, je me souviens très, très bien de mon premier séminaire et pourtant, c'était il y a bien longtemps. Et à chaque fois que je perds un peu de motivation, je me rappelle pourquoi je le fais. Je peux même m'en rappeler. Je m'assois sur mon coussin, je commence par ça. Je me rappelle ma motivation et hop, ça me redonne du cœur à l'ouvrage. Parce que bien sûr, on se lasse de tout et c'est tout à fait humain et normal. Et c'est un effort et c'est une discipline et voilà. Et des fois, l'esprit est pas tout à fait d'accord. Mais et puis c'est pas grave quand on loupe et qu'on passe des périodes sans, ça n'a aucune importance, c'est pas du tout
loupé. Non, il y a pas d'obligation, il y a pas de pression. Absolument. Justement, si on rentre dans l'atteinte d'objectifs et de résultats là-dessus,
Non, il faut que ça reste une rencontre joyeuse et pour ça la chance de méditer en groupe quand je transmets, justement quand j'enseigne, c'est génial parce qu'évidemment quand on est ensemble, c'est retrouver un groupe de méditation une fois par semaine, par exemple, c'est très très aidant, tu vois, pour la motivation aussi. Mmh. Voilà, c'est des choses qui, quand elles peuvent se mettre en place, nous soutiennent beaucoup.
Et pour les personnes, du coup, bon, qui n'ont pas forcément la possibilité de rejoindre un groupe de méditation, qui veulent se mettre à la méditation, ça serait quoi ton conseil ?
Alors, peut-être commencer par lire un ou deux livres sur le sujet pour voir, et puis après, il existe des associations. Moi, j'enseigne dans une école de méditation que j'aime beaucoup, mais il y en existe plein. Hein. Moi, j'aime bien celle où j'enseigne parce qu'elle est laïque, elle est très ouverte, voilà. Et par exemple, dans cette école, il y a des groupes de méditation par Zoom toutes les semaines. Il y a plein de groupes, bon, tu vois, donc ça veut dire que ce soir j'en anime un, moi j'en anime un par semaine et j'ai des gens qui sont à l'île de la Réunion, au Québec et puis partout en France, en Belgique et on se retrouve, on est par groupe, on est une petite quinzaine et on commence par une méditation guidée, je guide une méditation et puis ensuite on parle de la pratique, on échange autour de ce qu'on a traversé quoi, c'est des partages d'expériences qui sont très précieux. Donc il y a plein de depuis le confinement, il y a tellement de choses qui se sont développées, donc on peut le faire à distance aussi. Néanmoins, en tout cas moi dans mon parcours, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de commencer par un stage. Parce que alors j'avais lu hein aussi, donc quand je dis lire des livres, ça peut avoir du sens, mais rien ne remplace l'expérience d'un stage. Une lecture, ça peut donner le goût, ça peut intriguer, ça peut se dire tiens mais ça.
Puis la lecture, après ce qui est plus difficile, c'est que si tu fais une méditation guidée via l'écriture, t'as pas la voix de la personne et donc du coup c'est un peu plus difficile à faire.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de livres maintenant qui proposent aussi les méditations en audio.
En audio.
Via des QR codes ou tu vois. ils m'ont demandé l'éditeur m'a demandé d'enregistrer Affirmez-vous en version audio aussi, ce qui me permet de guider les exercices qui sont à la fin. Donc il y a quand même beaucoup, même sur YouTube on trouve beaucoup
oui, il y en a beaucoup d'idées, même il hein. y a vraiment des méditations avec des thématiques. Moi je sais que quand je sens qu'il y a quelque chose dans ma vie qui va pas, je tape méditation plus le nom de le thème de la problématique, et c'est vrai que ça fait vraiment du bien.
Oui, mais quand même, tout à fait. Et puis, ça peut être très bien comme ça. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, il n'y aurait pas eu ce séminaire de départ. Je ne serais pas là à te parler de méditation. Je veux dire, je pense que j'aurais...
Oui, tu sais pas du tout la même expérience.
Parce qu'il y a vraiment eu une transformation profonde et qui a vraiment transformé tous les aspects de mon existence. Ça m'a transformée en tant que maman, ça m'a transformée en tant qu'épouse, ça m'a transformée en tant que Camille, ça m'a transformée en tant que manageuse. Et c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'a tant plu. Ça m'a vraiment permis de reprendre ma vie en main. Et je pense que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas de méditation guidée sur YouTube, n'importe comment, mais j'aurais eu plus de mal, même avec une heure de temps en temps, tu vois, il n'y aurait pas eu cette révolution intérieure, finalement, que j'ai pu découvrir à l'époque. Donc, quelqu'un qui aurait envie, mais qui aurait du mal, et qui aurait déjà essayé sur des méditations guidées sur YouTube, qui aurait déjà lu un livre, mais qui aurait envie, mais qui aurait toujours du mal, je lui conseillerais de faire un stage. Parce que alors là, après le stage, tu sais vraiment si c'est pour toi ou pas, tout simplement. Ouais. Tu sais vraiment si c'est un chemin qui fait sens pour ton existence ou pas.
Comment t'écoutes ton intuition ?
Quelle belle question. En fait, tu vois, quand je t'ai dit à plusieurs reprises que quand j'ai eu mon premier enfant, puis quand j'ai eu mon deuxième enfant, ça, quand je disais je me pose et j'écoute, c'est vraiment des moments où j'écoute mon intuition. Donc, en fait, comment j'écoute mon intuition, je pourrais te répondre en méditant. Mais en méditant, c'est pas forcément en ayant une méditation guidée, ça peut être juste me poser quelques minutes sans trop bouger, sans trop parler, et voir ce qui vient, voir ce qui monte par rapport à une question. Est-ce que je dois écrire mon prochain livre sur ce thème ? Est-ce que je dois élever mes enfants de cette manière-là ? Est-ce que je dois repenser mon couple ? Est-ce que, donc, tu as des questions et là, il y a quelque chose de l'intuition qui peut venir répondre. Mais pour ça, il faut faire silence. À mon avis, il faut faire silence. Et on peut faire silence de manière très formelle en méditant, mais on peut faire silence en allant marcher dans la forêt. Je te parlais de la Seine, des bords de Seine et de cette petite cabane. Maintenant, moi, j'aime beaucoup marcher au bord de la Seine. On peut faire silence en marchant dans la nature ou en regardant un paysage qui nous plaît, en caressant son chat si on a la chance d'avoir un chat ou un chien. Enfin voilà,
faire jardinant,
c'est pas juste, c'est pas juste se mettre en tailleur sur un coussin. Et là, vraiment, moi, c'est des moments où je laisse, au lieu d'avoir des projets et de faire un effort de réflexion et d'essayer de trouver des réponses, je laisse l'intuition monter. Comment tu fais, toi ?
Alors moi, je vais nager. Du coup, justement, ça me permet c'est une sorte de méditation entre guillemets, parce que je me connecte. Alors, quand je nage en piscine, j'écoute des podcasts, mais quand je nage en mer, je suis vraiment connectée avec les poissons. Je nage souvent avec une amie, et elle me dit Charlotte, plus je nage avec un tube à frontal, elle me dit mais tu vas pas du tout dans la bonne trajectoire. Je dis ben non, il y avait un banc de poissons, moi je le suis.
Magnifique.
Et après, si en fait. Quand, alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais quand je me fais masser, ça me permet vraiment de me reconnecter à des choses assez profondes. Tu vois, c'est amusant parce que en me faisant masser, souvent je me disais en fait je fais beaucoup de choses avec mes mains, je fais des tableaux, je fais de la couture et tout, et j'utilise en fait j'ai une machine, ce que j'appelle un peu ma machine magique, qui permet de découper de la matière, notamment des matières thermocollées, pour faire des t-shirts personnalisés à mes enfants et compagnie. Et un jour je me suis dit, mais plusieurs fois tu vois, je me faisais masser, je me disais oh, j'aurais trop envie de faire des tableaux avec justement cette matière thermocollée. Et je pense que j'ai dû mettre deux ou trois ans à me dire, allez, Charlotte, prends le temps de le faire. Et là, maintenant, c'est ce que je fais. Et quand je fais ça, je suis connectée avec moi-même. Et donc, du coup, c'est des moments d'introspection où j'écoute ma petite voix.
C'est très bien. Ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir ce que font beaucoup de gens, hein, bien sûr. Ce que fait beaucoup de gens, c'est d'avoir un carnet sur ma table de chevet pour noter mes rêves. Parce que plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que les rêves ont quelque chose à me dire et que c'est toute une partie de mon existence qui est extrêmement riche. Je rêve beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de détails et je me souviens de beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est vraiment une partie de ma vie. C'est pas comme si la nuit, on vivait pas. Hein. Et c'est vraiment une partie de ma vie qui peut nourrir mon imaginaire, débrider un peu mes limites ou les limites que je me pose, les limites intellectuelles que je me pose, les limites créatives aussi. Et c'est pas sans rapport avec l'intuition. Écouter les rêves comme ça, laisser un peu plus libre cours à un espace créatif, c'est chez les aborigènes, c'est super important les rêves. Hein, c'est vraiment, dans beaucoup de cultures.
Ça en dit aussi beaucoup sur notre personnalité, tu vois. Il y a une personne qui m'a fait ce qu'on appelle vulgairement un gros coup de pute. Et cette personne, j'ai rêvé d'elle et je rêvais en fait que je lui ai éclaté la tête dans un gâteau en chantilly. Et je racontais ça à ma psy. Elle me dit, mais parce que bon, la personne m'a vraiment fait un coup de pute, mais enfin c'est peu dire par rapport à ce que cette personne a fait. Et elle m'a dit, mais en fait, mais vous êtes tellement gentille. Ouais. Et un autre jour, je rêve de cette personne et je me vois lui voler ses clés. Et puis après, je me dis, non, mais attends, elle a deux enfants, elle va se retrouver sur le palier avec ses trois étages à monter sans ascenseur, avec ses enfants sans ses clés, c'est vraiment trop méchant. Et ma psy me dit, ouais, Charlotte, vous êtes vraiment trop gentille. Et c'est vrai que j'ai pris conscience, en fait, que grâce à un rêve, ça a révélé une partie de moi qui était d'être trop gentille, donc.
D'accord.
Et qu'à un moment donné, il faut savoir pas se faire marcher sur les pieds non plus.
Oui, tout à fait.
Faut rester soi-même. Mais du coup, en effet, les rêves, ça veut dire ça raconte tellement de choses.
Ça raconte beaucoup de choses. Et puis il y a aussi des rêves réparateurs. Enfin bon, c'est parce que en même temps, les deux rêves que tu racontes révèlent peut-être que tu es trop gentil, mais montre aussi ton sens de l'humour.
Parce que quand aussi, même, c'est vrai.
Tu es en chantilly, c'est quand même.
Oui.
J'adore.
C'est trop mignon.
Ça montre aussi un humour certain.
Oui.
Et un côté très coquin, je lui vole les clés, je lui mets la tête dans la chantilly.
C'est vrai.
C'est chouette aussi.
Ouais.
C'est très facétieux. C'est bien.
Ouais.
Tu dédramatises en même temps, tu vois, tu dédramatises la chose. Donc, ça peut être
clairement
un moteur aussi.
Oui, ça se passe de toute façon. Après, j'en parlais justement avec une personne. Bah, si oui, hier, j'allais voir mon ophtalmo et je lui disais, bon, je voulais faire un petit check-up. Je fais un petit check-up global au niveau médical. Et donc, je lui raconte qu'il m'est arrivé quelque chose de très, très compliqué dans ma vie et tout. Et elle me dit, ah, mais vous le dites avec vachement d'humour. J'ai dit, bah oui, mais en fait, moi, c'est ma fin. Le burn-out, la séparation avec mon mari, bah en fait c'est des choses dont je parle avec le sourire, parce que même si évidemment ça a été les choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie, en fait il y a un moment donné, bah il faut prendre du recul et de se dire que la vie continue, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais l'humour, c'est il y a des maîtres de méditation qui notamment Shogyam Trungpa, qui disent que l'humour, c'est l'espace, hein.
Ouais.
L'humour te donne de l'espace, te donne de l'oxygène. C'est pas du tout une blague, hein. L'humour, c'est super.
Ça apporte la légèreté dans des situations très compliquées. Et tu te dis finalement, le nombre de fois où dans des enterrements où les gens rient, tu sais, t'as des fous rires nerveux. Et c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien. Non, non. Non, non, c'est sûr.
Comment tu célèbres tes réussites?
Ah, pas assez. Pas assez. Je célèbre bien mes enfants, qui pour moi sont des réussites. Et c'est vrai, je fais très attention à célébrer leurs accomplissements et qui font partie d'une certaine manière de ce que j'ai pas trop mal réussi sur Terre. Mais comment je célèbre mes réussites Peut-être tout simplement en m'en réjouissant, mais Mais c'est une question à laquelle, c'est une question que je me suis jamais posée, tu vois, voilà. Alors, là, je découvre la danse, j'en parle dans mon dernier livre aussi, je découvre la danse depuis le confinement. Ça n'a aucun rapport avec célébrer mes réussites, mais néanmoins, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir que c'est peut-être ça le cadeau que je me fais. Une danse de la joie. Je suis très en rapport à la joie. Et plus ça va, plus je découvre que la joie, c'est quelque chose évidemment d'important, mais de symboliquement très fort. Le monde de la joie, c'est le monde du symbole, justement. C'est le monde de l'imagination. La joie, c'est aussi un des visages de l'amour. Dans la tradition bouddhiste, la joie, c'est un des quatre visages illimités de l'amour. Il y a la bienveillance, il y a la compassion, il y a la joie et il y a l'équanimité. Donc, c'est très, très important. Alors, on va dire que je célèbre mes réussites, si tant est que j'y pense, en me réjouissant et en goûtant la joie. Et cela dit, c'est pas si faux comme réponse, parce qu'en fait, quand je réussis quelque chose, à écrire un livre ou à avoir un nouveau client que j'aime bien ou avoir de beaux résultats professionnels, c'est vrai que je suis très joyeuse. Et que depuis que je médite, je sais vraiment goûter la joie au lieu de prendre ça pour argent comptant, comme on dit, au lieu de faire comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc ça va être la joie, je me réjouis.
C'est quoi pour toi la réussite ?
La réussite, je dirais que c'est sentir, pour moi, c'est sentir que ce que je viens de faire me permet d'être un peu plus moi-même encore. Et que ce soit professionnel, amoureux, humain, maternel, je me dis « Ah, ça, c'est, ah ben ça, ça, ça révèle quelque chose de moi qui est vraiment moi, une petite chose en plus que je ne connaissais pas. Telle qualité relationnelle, telle capacité à aimer, telle capacité à créer. » Donc voilà, la réussite, ce serait vraiment me dire « Ah, ça, c'est… » une petite brique de plus qui révèle Marie-Laurence.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
Ben, je pense que je me suis dit « pourquoi pas moi » quand on m'a proposé d'enseigner la méditation. Et c'était un « pourquoi pas moi » absolument dingue, puisque rien ne me préparait à ça, pensais-je à l'époque. Mon activité professionnelle n'avait évidemment aucun rapport à ça, pensais-je, parce que depuis j'ai fait beaucoup de liens, mais je me suis dit pourquoi pas moi. Pourtant je suis une femme, il n'y a pas beaucoup de femmes qui enseignent la méditation, et il y a quelques années il y en avait encore moins, il y a beaucoup beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Je suis une femme qui ne s'estime pas spécialement accomplie spirituellement, pas spécialement intelligente, etc., etc. Mais pourquoi pas moi, quand même. Essayons. Et puis j'ai essayé et j'ai vu que c'était possible.
Pourquoi, selon toi, il y a peu de femmes ?
Parce que, j'en parlerai dans mon prochain livre, Charlotte, parce que le monde de la spiritualité est un bastion du patriarcat. Comme beaucoup de monde, mais on a travaillé, on a beaucoup travaillé, nous les femmes, sur le monde du travail, de l'entreprise, de la politique, hein, on essaie, hein, c'est très patriarcal aussi, mais on essaie. Mais la spiritualité, il y a encore beaucoup, et pour cause, hein, il y a encore quelques siècles, on brûlait les sorcières, hein, donc on hérite d'énormes traumatismes qui sont ancrés au fond de nous. On a peur, hein. Moi, je sais, mais. Je le vois, je le sens chez certaines enseignantes elles savent des choses, mais elles font gaffe à elles quand même. Elles font gaffe à pas trop la ramener, alors qu'un homme n'a aucun problème à la ramener et à dire qu'il a atteint l'éveil, hein. Mais aucun problème, hein. Ils le font pas tous, hein, attention, mais ceux qui le font, ça leur pose aucun problème. Donc, je pense que la spiritualité, c'est vraiment un bastion du patriarcat et qu'il y a deux, trois choses à faire bouger de ce côté-là.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie-Laurence de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
C'est une très belle question, parce que j'enseigne régulièrement un week-end sur rencontrer son enfant intérieur. Je l'ai enseigné à Paris, à Bruxelles, et puis le mois prochain, je l'enseigne à Genève. Enfin, au mois de mars, je l'enseigne à Genève. Et justement, dans ce week-end, comme quand je dirige les pratiques, je pratique moi-même. Hein. Quand tu diriges une pratique, tu la fais toi-même. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est pas incarné. Et en fait, ce que me dit la petite Marie-Laurence de 6 ans, elle me dit « N'aie pas peur, tu vas y arriver. » Et pourtant, elle est terrorisée, mais elle sait que je vais y arriver.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements ?
Les renoncements, je pense que en choisissant de fonder une famille, et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait et vraiment fière d'être une mère de famille nombreuse, j'ai renoncé peut-être un peu vite, parce que c'était pourtant pas une obligation, mais en tout cas c'est comme ça que je me suis débrouillée, j'ai pas su faire autrement, mais j'ai renoncé à toute une part voilà d'expression artistique qu'il n'est peut-être pas trop tard pour réactiver. Mais tu disais que tu peins, tout ça, moi je peignais, j'ai fait les beaux-arts, et c'est vrai que quand je suis devenue maman, j'ai peut-être pris ça très 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 au sérieux.
Ah non, il n'est pas trop tard.
Comment ?
Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard.
Non, il est jamais
trop tard. Sauf quand on est sur son lit de mort, mais...
Voilà, c'est ça, absolument. et sur son lit de mort, tant qu'on n'est pas mort, il n'est pas encore trop tard non plus.
Exactement.
Mais absolument. Donc voilà, j'ai renoncé à des expressions artistiques que je pourrais m'autoriser à réactiver maintenant, parce que je pense que c'est un petit peu dommage.
T'as quel âge, si c'est pas indiscret, aujourd'hui ?
60.
D'accord. Ça, c'est amusant parce que j'ai interviewé une personne qui... en fait, j'ai le format des succès comme toi et il y a le format en chemin. Et j'ai interviewé une personne qui était dans le monde de l'édition pendant plus de 30 ans et juste à 2 ans de la retraite, tout le monde lui disait « Ah, c'est bon, c'est bientôt la retraite. En gros, serre les dents, ça va bien se passer. » Et elle, quand elle entendait ça, elle dit « Non, mais en fait, moi, c'est bientôt la retraite. Ça, j'ai l'impression que vous me dites « C'est bientôt la tombe, quoi. » Et donc, du coup, elle a fait une rupture conventionnelle avec son entreprise et elle est devenue vitrailliste.
Ah, génial.
Et donc, Marion, aujourd'hui, elle doit avoir à peu près 62 ans, parce que c'était il y a 2 ans, je crois, l'interview que j'ai fait d'elle. Et tout à l'heure, je voyais sur Instagram qu'elle vient de se marier, avec l'homme avec qui partage sa vie, je crois, depuis 15 ans. Et je me suis, enfin, j'étais avec une personne quand je voyais le message, je me dis, mais, oh, je trouve ça génial et tout. Il me dit, mais pourquoi c'est génial? Enfin, oui, c'est cool, mais pourquoi c'est génial? Je dis, mais c'est génial de se dire, bah voilà, tu te maries après 15 ans où t'es avec la personne quand t'as 62 ans. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'exemple de la personne qui se dit, allez, on y va, quoi.
Oui. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de mouvements de femmes en ce moment auxquels on assiste et qui vont dans le bon sens. Et il y a aussi ces mouvements qui dénoncent l'âgisme, parce que effectivement, ça permet de voir que une femme de 50 ans n'est pas bonne à mettre au rebut, une femme de 60 ans non plus, une femme de 70 ans. Moi, j'organise des rencontres à la Maison de la Méditation de Paris régulièrement, où je reçois des hommes et beaucoup de femmes, et des femmes plutôt de mon âge, voire plus âgées, et la vitalité et ce qu'elles ont à nous apprendre et le travail qu'elles accomplissent, c'est juste, mais enthousiasmant, parce que là aussi, un homme âgé, on pense tout de suite vieillesse, une femme âgée, on pense vieille, quoi. Donc, alors que c'est une sage également, et en fait, écouter une femme qui a vécu, mais c'est juste passionnant, et puis, se dire qu'à 60 ans, moi, quand j'ai eu 60 ans, j'ai vraiment senti que je commençais une nouvelle vie.
Ouais.
Je te le dis à toi.
Voilà. Écoute, moi, je commence une nouvelle vie là, avec les 40 ans qui arrivent.
Ah,
donc,
oui.
C'est aussi une nouvelle vie.
Ah, mais oui.
Voilà.
Ah, mais 40 ans, c'est magnifique. 50 ans, c'est magnifique. 60 ans, c'est magnifique. Ma maman vient d'avoir 80 ans, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, ouais.
Chaque dizaine a des choses à nous apporter.
Ouais. Ah, oui, vraiment. Et ça aussi, J'espère qu'on va continuer à travailler sur des liens intergénérationnels. On est dans une société pour l'instant où il y a les enfants d'un côté qui servent pas à grand chose, les vieux d'un autre qui servent pas à grand chose, et puis au milieu la population active entre guillemets qui serait ça les vrais gens quoi. C'est affreux parce que voilà on est tous des petits enfants, des gens actifs, des petits vieux, des petites vieilles, et c'est ça qui est magnifique. Et plus on se rend compte, parce qu'on va tous justement, si on est vieille, c'est qu'on a pas morte.
Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. On a tous envie d'être vieille un jour.
Mais oui, absolument.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
La sensation de ne pas être aimée. Le manque d'amour. Et qui, à mon avis, enfin, je le sais maintenant, n'était pas quelque chose de réel, mais qui était quelque chose de ressenti. Je pourrais dire que grâce à la méditation, j'ai su trouver un lieu où je me sentais aimée, le lieu de la méditation, par exemple, parce que c'est un lieu qui est purement sans jugement, sans pression, sans cruauté. Et j'ai su aussi apprendre à m'apprécier moi-même et donc à me donner l'amour.
Poser comme question, c'est justement là j'ai lu le dernier livre de Maud Ankawa dont j'ai oublié le nom qui parle justement de ça, du fait de c'est plus jamais sans moi, et clairement c'est d'apprendre déjà à s'aimer, parce qu'en fait on a tendance, enfin je dis on parce que j'étais comme ça avant, j'allais chercher de la reconnaissance ou de l'amour à l'extérieur, qu'en fait c'était à moi de m'offrir à moi-même, parce qu'en fait je pouvais passer ma vie à aller le chercher.
Oui, c'est très important, parce que en fait tant qu'on pense qu'on n'est pas digne d'amour, donc tant qu'on ne s'aime pas soi-même assez pour réaliser qu'on est digne d'amour, on a beau nous donner tout l'amour du monde, on ne sait pas quoi en faire, en fait on ne le voit pas. Et pour ça, les pratiques de bienveillance, d'autocompassion, d'amitié envers soi, c'est vraiment des exercices. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué ça. C'est des pratiques que j'ai découvertes à partir de 2006 et que j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup enseigné, et ça m'a énormément aidée. Parce que je pense que c'était ma plus grosse difficulté, cet indécrottable sentiment de ne pas être aimée. Et là, je me suis détendue avec ça. Ça y est, voilà, je me suis détendue. Il y a toujours des moments où je me sens plus triste que d'autres, ou moins aimée que d'autres, mais ça prend plus du tout les proportions dramatiques que ça pouvait prendre. Et c'est des difficultés, parce que c'est très difficile de vivre avec ça et de s'accomplir dans ce contexte-là et d'avancer avec cette sensation-là, ce sentiment d'être mal aimée. Alors que effectivement, la grande découverte, c'est qu'on a beaucoup d'amour en nous. Et qu'on peut se l'offrir. C'est aussi en ça que consistent les pratiques de l'enfant intérieur, en fait, hein, parce que on se voit petite fille, petit garçon, et on voit à quel point ça nous touche le cœur et à quel point on peut se donner de l'amour, y compris à cet enfant qui a peut-être été mal aimé petit. C'est vraiment génial. L'esprit humain est d'une intelligence et d'une ingéniosité illimitée. C'est incroyable. L'esprit, le cœur, hein, c'est la même chose. Hein. Ouais. Quand je dis l'esprit, je veux pas dire juste le mental, l'intellectuel, mais
oui, l'âme,
toute l'âme, voilà, le cœur, toute cette puissance qu'on a en nous, hein, de réflexion, d'imagination, d'amour.
Mm-hmm. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Franchement, je suis assez fière du livre qui nous a amené à discuter toutes les deux, parce que très simplement parce que c'est un livre étape pour moi, qui m'a permis, moi la première, de voir tout ce que j'avais fait et dans quel contexte j'avais grandi, et que tous les retours que j'ai de mes lectrices, c'est oh là là, ça me déculpabilise, ça m'aide, etc. Et je me dis, mais c'est incroyable comment on a besoin d'être déculpabilisé, d'être autorisé. Bon, mais je suis fière. Moi, je pourrais dire, je suis fière d'être arrivée à 60 ans et d'être encore aussi dynamique, ambitieuse, pleine de projets. Ça, c'est quand même un grand étonnement pour moi. Et une fierté. Me sentir aussi en forme, d'aimer mon corps, d'aimer comme je suis. Ça, c'est vraiment une grande. Ouais, c'est, je suis fière de ça parce que c'était pas gagné. Quand je me revois à 20 ans ou à 30 ans, franchement, c'était pas gagné.
Qu'as-tu envie de dire aux personnes que tu croiserais là et qui te diraient tu n'en es là que grâce à de la chance?
J'ai pas compris la question, Charlotte.
Si tu croises quelqu'un là, oui, qui te dit « Ah non mais attends, t'as monté ta boîte, t'as l'air hyper épanouie, en plus aujourd'hui tu es quelqu'un de très très reconnu dans l'univers de la méditation », c'est « Tu n'en es là que grâce à la chance ».
Oh, je pense que il y a un peu de chance et de et d'opportunités et une bonne étoile et un ange gardien, certes, mais après j'ai tellement travaillé. Et je continue, je travaille tellement dans ma vie. Mais après, là, vraiment, le secret, c'est d'arriver à travailler dans le bon sens. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Audre Lorde, l'afro-américaine féministe, un livre qu'elle a écrit en 77, qui est un recueil de conférences qu'elle a donné dans la fin des années 70. Et elle dit que le travail est un lieu érotique. Et elle parle de l'érotisme comme non pas comme quelque chose réduit à la pornographie, comme on nous le fait croire, enfin tout à fait lié à l'acte sexuel et en plus à certaines manières de montrer l'acte sexuel, mais que non, l'érotisme c'est vraiment un élan vital qui nous met en mouvement, qui nous permet de faire le lien entre notre conscience et un chaos profond qui est au fond de nous, mais qui est plein de vie. Et elle donne comme exemple le travail qui peut vraiment être le lit de l'érotisme, mais de cet érotisme bien compris comme élan vital. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais je suis vraiment contente quand à chaque fois que j'ai travaillé, je l'ai fait de manière vraiment dans un élan vital. J'ai beaucoup organisé de séminaires de méditation, mais c'était un travail extrêmement puissant. J'ai beaucoup accompagné de clients dans leur visibilité, mais c'était vraiment un travail qui me motivait énormément, etc. Donc, je veux pas, quand je dis il y a un peu de chance, mais il y a beaucoup de travail, je veux surtout pas qu'on entende que le travail, c'est un sacerdoce et que j'en ai bavé et tout. Bien sûr, j'en ai un peu bavé. Ça, c'est le lot de toute vie humaine, mais j'ai quand même su mettre le travail et l'énergie là où c'était intéressant pour moi. Ça, c'est vraiment important. Ça demande quelques renoncements, ça demande des choix, mais c'est vraiment une question essentielle.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Oui, moi, le conseil que je donnerais, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire parce que ça m'a... Si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait aidé, c'est d'écrire. Alors ça peut être tenir un journal, ça peut être écrire ses rêves, ça peut être écrire des haïkus, avoir un petit carnet sur soi, écrire une pensée. C'est vraiment très beau de réaliser que notre vie vaut quelque chose. Et quand on écrit ce qu'on vit ou ce qu'on pense ou ce qu'on éprouve ou ce qu'on traverse ou ce qu'on aime, après avoir vu un film à la télé ou une exposition dans un musée, quand on écrit, on réalise la valeur de notre vie. Toute vie a beaucoup de valeur et l'écriture est vraiment une très belle manière d'entrer en relation avec cette valeur, d'intégrer la valeur de notre existence.
Oui, je rajouterais même d'écrire de façon manuscrite, parce oui, que c'est prouvé scientifiquement que le fait d'écrire de façon manuscrite nous connecte à des parties de notre inconscient, où ça sera moins le cas quand on écrit sur ordinateur.
Merci beaucoup pour la précision, parce que pour moi, c'était évidemment écrire, tu vois, quand je dis un carnet sur la table de chevet ou un petit carnet dans la poche. Moi, j'ai toujours des petits carnets, là, les petits formats et avec un petit stylo à billes très, très léger, parce que j'aime pas que mon sac à main soit lourd. J'ai des micro sacs à main. Donc, j'ai un tout petit carnet avec les petits stylos que je vole dans les chambres d'hôtel, tu sais, tout, tout, oui, léger et qui est enfilé dans mon carnet. Et comme ça, je suis dans le métro, je suis dans la rue, je suis dans un café, hop. Et j'écris. Si quelque chose me plaît ou m'interpelle, j'écris. Et j'écris à la main, en effet. L'ordinateur, c'est quand en prêt, on se plonge dans des projets plus longs et qu'il va falloir diffuser. Mais le manuscrit, c'est très important.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon professeur de méditation qui me l'a donné, c'est parle à partir de ta propre expérience. N'essaie pas de dire des choses qui te semblent intelligentes ou qui te semblent ou que t'aurais entendu, qui t'aurait beaucoup plu. Parle à partir de ta propre expérience. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce que je l'applique à tous les pans de ma vie. Quand je parle à un client, je parle à partir de ma propre expérience. Quand je parle à un de mes enfants, je parle à partir de ma propre expérience. Quand je transmets la méditation, je parle à partir de ma propre expérience. C'est vraiment très précieux.
C'est quoi tes prochains défis ?
Alors, mon prochain défi tout proche, c'est de concevoir entièrement un week-end de méditation et d'enseignement que je vais faire autour du thème Affirmez-vous et que je dois concevoir en créant les méditations guidées qui peuvent aider à intégrer ces enseignements. Et puis, et c'est un défi parce que je prends ça très, enfin, pour moi, la méditation, c'est pas du tout un passe-temps ou un hobby ou un petit supplément d'âme ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut profondément aider. Donc, j'essaie de faire ça le plus honnêtement possible. Donc, ça, c'est un défi. Et puis, le prochain défi, ça pourrait être de me remettre à peindre.
Je te le souhaite.
Merci beaucoup, Charlotte.
Est-ce que tu as, alors on reparlera avant de se quitter de tes livres, mais est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous ?
Oh là là, j'en ai tellement. D'ailleurs, à chaque fin de mes livres, il y a toujours une bibliographie parce que je me nourris beaucoup, beaucoup. Je lis énormément, je lis beaucoup, beaucoup, j'adore. Là, je suis en train de lire un livre de Gloria Steinem qui s'appelle Une révolution intérieure et qui vient juste d'être réédité en français avec une préface de Mona Chollet et je me régale. Je trouve que c'est un livre qui nous éclaire beaucoup sur le système éducatif, sur le système du travail, sur l'enfant intérieur. Je m'attendais pas du tout à trouver cette notion-là chez Gloria Steinem de l'enfant intérieur. C'est un livre qui fait des liens avec différents thématiques que je travaillais mais que j'arrivais pas forcément à harmoniser et ça nous montre de quelle manière il est si facile de perdre l'estime de soi et donc comment la regagner.
Super. Et donc du coup pour tes livres, donc le Affirmez-vous vient de sortir en poche.
Absolument, chez Pocket.
Aujourd'hui même, le 16 février.
Voilà, exactement. Il sort aujourd'hui en poche chez Pocket et il sort également en audio. Et en plus, je suis contente parce que c'est moi qui l'ai enregistré. J'ai passé le casting. Tu sais, normalement, les livres audio, ils les font enregistrer par des comédiennes, évidemment, ou des comédiens. Et j'ai demandé à passer le casting. J'ai été reçue. J'ai été retenue. Donc, j'ai pu l'enregistrer. Alors, évidemment, c'est peut-être pas comme une comédienne, mais en tout cas, c'est...
Oui, mais c'est encore plus juste parce que chaque mot,
C'est fait avec beaucoup de cœur. Puis comme ça me permet de guider aussi avec ma voix les exercices de la fin. Donc ça, c'est chez Audible, c'est écoutable chez Audible. Ouais. Et puis avant ça, j'avais sorti, alors Affirmez-vous existe en grand format sous le titre Éclore enfin. Et puis avant ça, j'avais sorti plusieurs guides sur la méditation et la méditation de la bienveillance chez Le Duc.
Je mettrai de toute façon tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.gouv.
D'accord. Et en 2014, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai donc aussi ouvert un blog qui s'appelle Méditation et Action. Ouais. Et sur lequel je raconte comme ça, j'écris des petits billets sur la manière dont la méditation s'ancre dans mon quotidien. Et puis, je parle aussi des belles rencontres que je fais d'enseignants de méditation ou d'auteurs, ou d'autrices. Voilà.
Super. Je mettrai, c'est méditation-et-action.com. Je mettrai le lien aussi sur le blog.
Merci beaucoup, Charlotte.
Ouais, avec grand plaisir. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Alors, j'ai envie de dire merci à Fabrice Midal qui m'a donc enseigné la méditation. Et puis, merci à mon mari Bruno qui est un soutien de chaque jour et qui est un véritable ami qui est peut-être le plus bel ami que je puisse rencontrer et qui partage ma vie depuis 40 ans.
C'est beau.
Voilà.
Et moi, j'ajouterais merci à Nadalette Lafonta que j'avais eu le plaisir d'interviewer, qui m'avait envoyé un petit mail en me disant qu'elle voulait nous mettre en relation pour que je puisse t'interviewer. Donc, un grand, grand merci Nadalette que j'embrasse.
J'embrasse aussi Nadalette, que j'aime beaucoup, qui a de très belles pages aussi sur l'écriture et qui parle aussi très bien de la méditation, qui l'a beaucoup aidée dans son parcours de vie.
Qui a un parcours incroyable aussi.
Merci Charlotte.
Merci à toi.
Merci Charlotte aussi. Un grand merci à Charlotte. C'était très, très agréable de converser avec toi. Merci beaucoup pour tes questions et ton écoute.
Avec plaisir, merci. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. À très vite.
À bientôt, au revoir.
J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.